présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. La chance, nous avons retrouvé la famille de Didier. Galien est surpris. Comment ? En inquiétant, tout à fait par hasard, dans le quartier du Marais, chez les commerçants et les concierges, un bureau de tabac a reconnu sa photo. Il nous a dit qu'il le connaissait depuis longtemps. Il m'a même donné son nouvelle adresse. L'adresse de sa famille. Ils habitent à Montparnasse, dans un vieil immeuble. Sa mère vit seule. Son mari l'a quittée depuis des années, mais elle a un ami qui vient de temps en temps. Le petit Didier ne voulait pas de son nouveau beau-père. C'est pour cela qu'il a quitté la maison. Vous avez dit au sujet de son fils ? Non, et je vous conseille de ne pas le faire. Il ne faut pas le dire. Mais elle va croire qu'il est toujours vivant. Et alors, c'est peut-être mieux pour elle. C'est terrible pour une mère d'apprendre la mort de son fils. Oui, je comprends. La famille est pauvre, pas très riche. Il y a des frères, des sœurs, une grande sœur. Que fait la mère ? Elle fait des ménages. Bien, je vous remercie. Je vous conseille, monsieur, c'est de ne pas chercher à les voir.
Pourquoi ? Cela risquerait de vous apporter des ennuis.
Laissez-le en paix. Le petit est mort. C'est bien regrettable, mais nous n'y pouvons rien. » Galien lui dit,
« Un soir, j'ai rencontré une personne qui venait de perdre son mari et son petit garçon dans un accident de voiture. La mère me connaissait et savait ce que faisait notre société. Elle s'est mise dans la tête que j'avais le pouvoir de faire revivre son petit garçon. Ai-je le pouvoir de le faire ?»
L'enfant lui répond, « Cette femme était ridicule, folle. Personne n'a le pouvoir. »
Galien lui dit, « Même avec l'ADN ?»
L'enfant lui dit, « Même avec l'ADN, même avec toutes les formules, les chimies, personne n'est capable de redonner la vie. Parce qu'en réalité, personne ne sait vraiment ce que c'est la vie. »
Galien lui dit, « Oui, mais nous connaissons de quoi est fait les êtres vivants.
Cela n'est pas tout. Vous prenez un récipient, vous mettez tous les produits chimiques dont sont faits les hommes avec les bonnes doses. Cela ne fait qu'un liquide informe qui ne donnera pas la vie. La vie, c'est autre chose. Quelque chose qui est en plus de ce que nous sommes chimiquement et physiquement. Et cette chose, nous ne savons pas ce que c'est. C'est comme le cerveau. Nous savons et nous arrivons à savoir comment il fonctionne, ses réactions, mais pas ce qui le fait fonctionner. »
Galien lui dit, « Le fluide, c'est peut-être l'âme qui donne la vie ?»
L'enfant lui dit, « Si c'est l'âme, nous ne savons pas de quoi c'est. Et puis, où ça se trouve, peut-être un fluide qui est dans tout le corps. Et même si nous apprenons ce que c'est ça, ça ne voudra pas dire que nous saurons le dominer. »
Galien lui dit, « Ah, la science ne sait pas grand-chose.
Si elle apprend de jour en jour un peu plus, mais plus elle apprend, plus elle se rend compte qu'elle s'éloigne de son but. »
Galien lui dit, « Cela signifie peut-être qu'elle s'est trompée de route ?»«
Oui, peut-être que depuis des centaines d'années, l'homme s'est trompé. Il s'est plusieurs fois trompé déjà. Mais malgré que l'on se trompe, l'on trouve tout de même quelque chose. »
Alors, Galien lui dit, « Un grand mystère ?»
Et la biotech ?» L'enfant lui dit, « C'est une vieille science qui s'est mise aux nouvelles technologies. Elle nous aide à transformer la nature, mais sûrement pas à redonner la vie. »
Galien lui dit, « Il paraît qu'avec l'ADN, l'on va pouvoir refaire vivre des mammouths. »
L'enfant lui dit, « C'est une stupidité de journaliste. En réalité, on va mettre de l'ADN de mammouth dans un éléphant qui va certainement faire naître un bébé éléphant qui lui aussi aura de l'ADN de mammouth. Il lui ressemblera peut-être un peu, mais de là à dire qu'on va faire revivre des mammouths morts il y a des milliers d'années, c'est un peu fort. Sûrement, on ne pourra jamais le faire. L'ADN, ce n'est pas toute la personne. Et une personne et une et un être, ce n'est pas son physique, c'est son caractère, son savoir, son histoire, ses goûts, sa culture, etc. Et ça, l'ADN ne l'a pas, car le caractère vient du milieu où l'on vit et sa façon dont le corps vit ce milieu. Un homme qui a vécu il y a 500 ans, même si on le fait revivre, n'aura pas le même milieu et ne sera pas le même. »
Galien lui demande, « Toutes ces recherches, c'est pourquoi ?» L'enfant lui dit,
« C'est pour soigner, repousser, améliorer ce qui vit. Une personne qui a un organe malade, mort, et si on ne lui met pas un autre organe, est en danger.
elle risque de mourir.
Alors, on crée un autre organe avec l'aide de l'ADN, qui le lui refera et d'une façon identique. Et cet organe de remplacement n'aura ni rejet ni complication, puisqu'il proviendra de la personne même. Voilà à quoi peuvent servir les recherches sur l'ADN. Ça peut servir aussi pour les médicaments. Comme vous le voyez, nos recherches ne sont pas des recherches d'apprentis sorciers, mais des recherches scientifiques, sérieuses et humanitaires. Nous ne cherchons pas à dominer le monde ou à créer des esclaves.
Galien lui demande, « Mais pourquoi cachez-vous vos recherches ?»«
Parce qu'il y a beaucoup de concurrence, tels les Américains, et ces recherches coûtent très cher et peuvent rapporter gros. Vous pouvez être fier d'être le président du groupe Genetou. »
Je vois, je comprends mieux. Mais vous auriez dû m'en parler dès mon arrivée.
Vous avez déjà tellement de choses à apprendre.
Et les autres groupes?
La chimie, c'est les produits chimiques et insecticides. Les ordinateurs, vous savez ce que c'est. Là aussi, l'ADN va nous servir. Nous allons en mettre dans les ordinateurs. La construction navale et l'aviation, là aussi, vous savez ce que c'est.
Galien lui demande, « Et les super grands bateaux, ils se construisent. Vous y croyez ?»«
Oui, et l'on n'a rien à y perdre, car on peut les transformer en hôtels de luxe. Et nous avons aussi les financiers, c'est-à-dire les recherches pour faire fructifier notre argent en actions ou l'autre. Nous avons de nombreux immeubles dans le monde entier. » Voilà votre petit empire. Il y a encore 2-3 petites choses aussi. Mais si nous pouvions nous unir avec la Pontoise Compagnie, là nous serions un sacré empire. Vous savez que Pontoise était en affaire avec Bill Gates.
Oui, il est toujours en affaire avec eux.
Oui, bien sûr. Je vous conseille, c'est d'avoir de bons rapports avec le fils Pontoise. Qui sait ?
Galien lui dit, j'ai toujours essayé, c'est de lui parler et de nous unir, mais il ne veut pas. Je crois qu'il n'est pas très porté sur les affaires. Danfort lui dit,
je sais, malheureusement pour lui, son empire risque de s'effondrer comme un château de cartes. Remarquez, nous pourrons le racheter 4 cartes par carte.
Je ne voudrais jamais, j'aurais trop honte.
Il n'y a pas de honte en affaires. Ce n'est pas notre faute s'il ne s'occupe pas de ses affaires. Tant pis pour lui. Et puis, on pourrait le mettre au bureau ou au conseil d'administration avec un bon salaire. Il sera salarié et ne s'occupera de rien. En réalité, rentier. Il faudra y réfléchir. De toute façon, cela ne changera rien à sa vie.
Galien lui dit,
peut-être, mais son honneur, on y met dessus un bon paquet d'actions et la chose est jouée.
Un peu dur, non?
Oui, peut-être, mais il n'avait qu'à s'occuper de ses affaires. Et puis c'est mieux que d'être dans le ruisseau.
Galien soupire et lui dit, nous verrons, pour le moment les affaires Pontoise marchent. Monsieur Danfort, voulez-vous me donner l'adresse de la mère de Didier?
Vous n'allez pas faire de bêtises?
Non, pas du tout. Je veux simplement me renseigner sur lui. Il est mort pour nous. Ne l'oubliez pas.
L'enfant soupire et lui dit, je vous donne l'adresse, mais attention, monsieur.
Il lui tend un papier.
Voilà.
Merci.
Et l'enfant sort du bureau.
Galien regarde l'adresse que lui a donnée Danfort. Il serait mort. Pour qui? Pourquoi faire? Et qu'est-ce qu'il voulait lui dire? Il faut qu'il sache. Le lendemain après-midi, il a pris la voiture pour le mener devant l'immeuble de la mère de Didier. Il a vite un vieil immeuble sans style, tout noir. Il est entré dans l'allée, une allée étroite et sale, avec peu de lumière, des boîtes aux lettres dépareillées, des escaliers de pierre usés et étroits. Ça sent les poubelles et la cuisine. Il regarde les boîtes aux lettres. À quel étage il se trouve? Au troisième étage. Il monte les trois étages. Troisième étage. Porte gauche. Arrivé devant la porte, il ne sait quoi faire. Pourquoi il est venu jusqu'ici? Que dire à la mère? Il reste un moment, comme ça, sans bouger, et décide de repartir le cœur serré, car il se dit que c'est là que le petit Didier a vécu. Il baisse la tête et s'apprête à partir. La porte s'est ouverte. Il est surpris comme paralysé. Une femme de taille moyenne, grosse, les cheveux en bataille, habillée d'une blouse à fleurs. Vous désirez? Il ne sait plus. Il s'entend dire. Je fais une enquête sur les habitants de l'immeuble. Elle lui dit « Entrez, vous avez de la chance. J'ai un peu de temps. Cet après-midi, le feuilleton « Le temps de l'amour » a été annulé à cause du foot. J'allais aller sortir pour me distraire. Mais puisque vous êtes là, vous allez me distraire avec vos questions. » Hésitant, il entre. Elle ferme la porte derrière lui. Il se trouve dans un petit couloir avec cinq portes. Des patères en bois, au mur, avec des vêtements mis en vrac, des chaussures, aux pieds, des vêtements. Venez, nous allons aller à la salle à manger. Elle va ouvrir une porte qui se trouve à gauche de l'entrée. Entrez. C'est une pièce de taille moyenne, sombre, avec des meubles de salle à manger en formica imitation bois couleur sombre. Il y a une télévision dans un coin, une pile de télé 7 jours sur le poste, au-dessus du buffet des poupées genre vogue. La table rectangulaire a une toile cirée dessus avec de grosses fleurs stylisées. Asseyez-vous. Elle lui montre une chaise qui est contre la table. Il s'assoit. Et elle s'assoit en face de lui. Je
vous écoute, monsieur. »
Il ne sait quoi lui dire.
« Cela fait longtemps que vous habitez ici ?»«
45 ans, mais depuis toujours, je suis une des rares parisiennes. Au début de mon mariage, j'avais demandé une HLM, mais quand je ne voyais rien venir, j'ai pris ici. Je ne regrette pas, avec tout ce qui se passe dans ces cités. »«
Vous travaillez ?»«
Oui, je fais des ménages depuis que mon usine a arrêté en 76. Une petite usine de textile. »«
Vous vivez... » Avec combien de personnes ?
Pour le moment, je suis seul. J'ai deux enfants, une fille et un garçon. La fille habite avec son copain et le garçon court les rues. C'est une tête brûlée. Je suis divorcé, j'ai un ami, mais il vit pas vraiment avec moi à cause du petit qui ne l'aime pas. Mais si je vois qu'il ne vient pas, je vais dire à mon ami qu'il peut venir vivre ici.
Vous ne cherchez pas à savoir ? Où se trouve votre fils ?
Non. Et puis comment ? Paris est grand. La police a autre chose à faire avec tout ce qui se passe la nuit. Vous voulez boire quelque chose ?
Oui, merci.
Un café ?
Oui, merci.
Elle se lève.
Je vais à la cuisine.
Elle le laisse et regarde autour de lui. C'est la première fois qu'il se trouve dans le logement qui n'est pas de sa classe. Il se dit qu'il a vécu ici.
Eh oui, il a vécu ici. Eh oui, il a vécu ici. Elle revient avec une cafetière, des verres et une sous-tasse. Qu'elle dépose sur la table. Et elle repart. Elle revient avec une boîte à sucre en métal. Des cuillers et une boîte de gâteau. Vous voulez du lait avec le café ?
Non, merci.
Il sert.
Vous voulez du lait avec le café ?
Non, merci.
Faut pas vous gêner parce que moi j'en prends. Parce que je fais du café très fort. Tenez, prenez du sucre.
Elle ouvre là-bas la boîte.
C'est du sucre en morceaux.
Elle retourne à la cuisine. Reviens. Avec un berlingot de lait en carton.
Vous voulez du lait ?
Non, merci.
Elle s'en sert.
J'ouvre la boîte à gâteau. Petit gâteau sec, industriel.
Et elle s'assoit.
Ils boivent une gorgée. Le café est fort bon. Il se dit que ça doit lui coûter cher avec la pénurie. Elle lui demande.
Alors, c'est bon ?
Oui, très bon.
Je fais bien torser et dans une cafetière culottée. C'est ça le truc. Il faut jamais nettoyer la cafetière. Et dire que dans les cafés, il les nettoie avec de l'eau salée. Le café doit avoir un de ses goûts. Prenez des gâteaux. Ils sont très bons. Ils viennent de prise unique. C'est une bonne qualité.
Galien en prend un. Il est ému par cette simplicité. Elle lui dit
« Ce ne doit pas être facile, votre métier. Aller chez les gens comme ça. »
« Mon métier ? » ?»«
Oui, les sondages. »
« Ah oui !» Il s'en souvenait plus.
« Alors, je vous écoute. »
« Parlez-moi de lui. »
« De qui ?»«
Du petit. »
« Pourquoi ?»
Il hésite et lui dit « Comme ça, pour savoir, l'école et tout, l'école du quartier, vous comprenez ?»«
Oui, je vois. Je voulais savoir si j'étais satisfaite de l'école du quartier. »
« Voilà, c'est ça, » elle lui dit.
« Ma foi, pour ma fille, j'ai pas eu de problème. »
« Et le petit ?»«
Lui, c'était un véritable chenapan. Il fallait toujours qu'il fasse des blagues en classe. Remarquez, c'était un bon élève, et pourtant il ne travaillait pas. Mais les choses entraient toutes seules avec lui. Il a toujours été très intelligent. Lorsqu'il est entré en sixième, j'ai cru que nous allions en faire un avocat ou autre. Et puis non, il a continué à faire le fou. Mais il était tout de même bon élève. Mais il avait des tas de copains. Il ne s'entendait pas avec sa sœur, mais rien de grave.
C'est compliqué le jour où j'ai rencontré mon ami. Là, il ne voulait pas. Il a tout de suite rejeté. Il a fait de plus en plus de fugues et ne travaillait plus. Pourtant, mon ami a tout fait pour se rapprocher de lui, pour sympathiser. Mais non, le petit voulait son vrai père, qui, lui, ne le voulait pas. Voilà. Je me demande pourquoi je vous ai raconté tout ça. Vous allez croire que mon fils est un garnement. Il est très attachant. Tout le monde me le dit, mais trop indépendant. C'est dans sa nature, on n'y peut rien. Quand il reviendra, je lui parlerai et lui dirai de penser à son avenir. Je pense tous les jours à lui et attends son retour.
Galien se sent gêné. Il lui demande
« Vous pouvez me montrer sa chambre ?»«
Oui, bien sûr. C'est l'assistante sociale qui vous a dit de venir ?»«
Non, la mairie. Mon fils n'a jamais manqué de rien. J'ai toujours bien traité. »
Elle se lève.
Venez, je vais vous montrer sa chambre.
Il se lève lui aussi. Et il la suit. Il sort toute la salle à manger. Elle le mène à la chambre. Entrez, c'est ici. Il est entré.
La pièce n'est pas très grande. Il y a une fenêtre sur la rue, un lit à une place, fait avec un dessus de lit en couverture jaune. Une petite armoire à une porte, dessus l'armoire des voitures. Une petite table avec dessus un nounours, du linge, des cahiers. Une chaise, une table de nuit. Une petite chaîne à terre. Sur le mur, au-dessus du lit, il y a une affiche du film « Éclipse totale ». Les meubles sont en formica beige. C'est propre, rangé. S'il avait été seul, il aurait ouvert l'armoire. Elle lui dit
« C'est simple, mais propre, et il lui manque rien.
Mais il préfère être dehors, je ne sais où. Il va encore entrer dans un état ?»
Il regarde ce décor d'enfant sage, pauvre Didier. Il lui dit « Merci, madame. »
Et il sort de la pièce. Je vais vous laisser. J'espère que votre rapport sera bon. Il ne répond pas. Puis il lui dit « Merci de m'avoir reçu. Ce n'est rien. » Elle le raccompagne jusqu'à la sortie de l'appartement.
Au revoir, monsieur.
Et il sort.
Il tombe nez à nez avec un homme grand, fort, cheveux grisonnants dans les 50 ans, habillé d'un costume gris et d'un t-shirt blanc. Il demande
« Qui c'est ?»
Elle dit à Galien « C'est mon ami, Monsieur Robert. » Et dit à Robert « C'est un enquêteur, à cause du petit. » L'homme dit
« Ah, le petit, vous avez des nouvelles ?»«
Non. »
Vous savez, nous n'avons... n'y sommes pour rien s'il est parti. Mais il est comme un petit oiseau qui n'aime pas être en cage. J'ai tout fait pour qu'il se sente bien.
La femme dit, ah, pour ça, oui, il a tout fait. Mais le petit l'a rejeté. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, car au début, il semblait ne pas être contre.
Robert dit, oh non, pour ça, oui.
Elle dit, Robert était toujours à lui faire des câlineries. On avait vraiment l'impression qu'il était le père.
Oh, pour ça, oui.
Galien se sent malgré lui mal à l'aise. Il a l'impression que ça sonne faux. Il leur dit, bon, eh bien, je vais vous quitter et merci pour tout.
L'homme lui dit, attendez, je vais vous raccompagner.
Elle lui dit, oui, tu as raison.
Et Galien descend les escaliers avec Robert. Il entend derrière lui la porte refermée.
Gentille femme, hein? Un peu simple, mais gentille. Son fils est bien, lui. Moi, j'aime bien les gens gentils. Vous, je sens que vous l'êtes.
Il met la main sur l'épaule de Galien, qui est surpris, et la serre, et lui demande
« Vous êtes ici ?»«
Non. »«
Ça se voit, je vous aurais reconnu. »
Il lui caresse l'épaule.
« Vous avez quel âge ?»
Galien lui dit « L'âge de me défendre. » Il sent que l'homme le regarde de la tête aux pieds. Son regard semble vouloir dire « Joli petit cul. » Galien reconnaît les signes de l'envie. L'homme lui caresse le dos. Ils sont arrivés en bas. Robert lui dit, d'un air suppliant,
les caves, vous voulez pas les voir?
Non, merci.
Et d'un geste, il se dégage et sort de l'immeuble. La lumière du jour le surprend. Il va vers la voiture et entre.
Il dit au chauffeur, nous pouvons rentrer.
Bien, monsieur.
Galien comprend pourquoi Didier ne voulait pas rester chez lui. Il se dit,
quel salopard ce mec. Il séduit la mère pour avoir le fils. Il mériterait que je le prenne pour mon laboratoire.
Il sourit à cette idée. Il se dit que lui aussi finira par devenir comme les autres. Il pense à la pauvre mère qui va attendre indéfiniment son fils. Pauvre femme. Qui ne sait pas. Il se dit aussi qu'elle a beaucoup de mérite de tenir sa maison et de vivre avec des petits boulots. Il a envie de faire quelque chose pour elle.
Je vais tâcher de lui trouver du travail sans qu'elle s'en rende compte, sans qu'elle sache que ce soit moi qui le lui procure.
Arrivé au bureau, il le dit à Danfort qui fait la grimace.
« Vous n'allez pas lui dire que ça vient de nous. Mettez-la dans une de nos filiales. »«
Bien, monsieur. Et dans quel travail ?»«
Je ne sais pas, moi. Petite manutention. » »«
Bien, à la Specia, à la fabrication des comprimés d'aspirine. Cela pourra aller ?»«
Très bien. » C'est ce qui a été fait. Le temps passe. Un jour, il se rappelle qu'il a un château en Bourgogne et décide d'y passer une fin de semaine. Le vendredi, il part avec chauffeur et l'indispensable Danfort. On ne sait jamais s'il y a un ennui urgent à régler. Ils arrivent dans la soirée. Les domestiques ont été prévenus une semaine à l'avance et ont tout préparé. Arrivés, l'on porte les bagages dans leur chambre. Le majordome demande à Galien.
Vous voulez vous restaurer un peu?
Oui, merci.
J'ai préparé un petit plateau de charcuterie et des fruits dans la salle à manger.
Merci, je vais me changer et j'y vais.
Il monte à sa chambre.
La pièce sent la lavande et la cire. Malgré le décor grandiose, Galien se sent bien. Une heure plus tard, il est avec Danfort dans la salle à manger de la charcuterie avec du pain de campagne et du cidre.
Danfort lui dit : Oh, quelques jours de repos nous fera le grand bien. Vous savez jouer au golf ?
Non.
Ah, bon, c'est dommage. Karine, elle savait très bien jouer.
Galien lui dit : Ah oui, Karine, depuis que je suis avec vous, que de mort.
Eh oui, c'est la vie.
Galien lui dit : Cette Karine, qui était-elle ? L'enfant lui répond :
Une belle femme, un peu mystérieuse, que j'ai tout à amener dans ses bagages.
Ce genre de femme que les milliardaires s'intéressent en se demandant.
On se demande bien pourquoi, d'ailleurs. Elles sont belles comme des fleurs sauvages et dangereuses aussi comme un animal sauvage. Les hommes les plus civilisés s'entichent de femmes qu'ils sont au moins pour leur malheur.
D'après vous, elle était dangereuse.
Elle aimait l'argent et le pouvoir.
Et jeune tout, lui,
il n'y a qu'à voir son portrait pour le savoir.
Donc, elle restait avec lui pour l'argent.
Oui.
Et
aurait-elle pu apprendre quelque chose de secret ?
Quel secret ? Il n'y en a pas.
Pourtant, elle est morte d'un mal étrange. L'enfant lui dit.
Ces sauvages mangent un peu n'importe quoi. Elle a pu s'empoisonner en mangeant une plante quelconque.
Et le tableau ?
Le tableau ? Quel tableau ?
Celui qu'elle m'a montré avant de mourir.
Oh oui, mais c'était peut-être un geste comme ça, où elle voyait peut-être une hallucination et voulait vous la montrer.
Galien lui dit. Je ne pense pas. Elle semblait consciente et voulait vraiment me montrer. Je vais aller voir ce tableau. Il se lève et lui dit. Si vous n'avez pas fini de manger, restez.
Merci, je vais avec vous.
Il se lève lui aussi. Sort de la salle à manger pour aller dans la chambre de Karine.
Ils sont dans la chambre. Danfort lui dit.
C'est pour le tableau que vous êtes venu ?
Non, je n'y pensais plus. Ça m'est venu comme ça.
Ils sont devant le tableau. Danfort lui dit.
Vous voyez, il n'y a rien de spécial. C'est un portrait.
De qui ?
Je ne sais pas. Et je ne pense pas que jeune tout devait le savoir. Le tableau a été acheté chez un antiquaire parce qu'il lui plaisait. Voilà tout.
Galien se penche vers le tableau et dit « La signature est illisible. » L'enfant lui dit
« Un peintre très connu. Jeune tout se fichait pas mal du nom de l'artiste. Ce qu'il aimait, ce n'était pas la signature, mais le tableau, l'œuvre d'art. » Il avait raison.
Galien soulève le tableau et ne voit rien. Il demande « Qui était l'antiquaire ?
Il faudrait voir sa facture.
Vous me la chercherez, si vous le désirez.
Et ils sortent de la chambre.
Galien est allé se promener dans le parc. Il aime ce parc. Dans la soirée, avant le dîner, Danfort lui donne la facture au salon.
Voilà la facture, monsieur.
Merci.
Galien la regarde. C'est chez un antiquaire du Marais. Le tableau était payé 50 000 francs.
Galien se dit que ce n'est pas une croûte. Mais pourquoi aussi cher pour un peintre sans nul doute inconnu ?
À moins que cela cache quelque chose.
Thank you.
De retour à Paris, il va voir l'antiquaire dans le quartier du Marais. Beau magasin d'antiquité, belle vitrine, meubles à un très gros prix. Là se voit que c'est un véritable magasin d'antiquaire. Il est entré. Une grande femme, mince, cheveux longs châtains, élégante dans les 30 ans. Elle porte une robe grise en laine toute simple, mais de très bonne coupe, ce qui démontre son prix. Vous désirez, monsieur ?
Bonjour, madame. Je suis venu, c'est pour un renseignement. Sur un tableau qui a été acheté chez vous.
Oui.
Il lui montre la facture. Vous l'avez eu ? Comment ?
Je suis l'héritier de Monsieur Jeune-Tout. Je suis Galien Diap.
Oh oui, l'élu. Je suis enchanté. Maintenant, je vous reconnais. Pardonnez-moi.
Cela fait longtemps que je vous attendais.
Ah, vous avez quelque chose à me dire ?
L'on a toujours quelque chose à dire à l'élu. Surtout pour lui dire que tout se passe bien. Nous avons de bonnes rentrées et nous allons bientôt avoir une 20aine de maisons. Les recherches avancent. Bientôt, tout sera à nous. Nous avons de nombreux savants et les signes sont là. Vous êtes vraiment celui qu'il nous fallait.
Galien ne comprend rien à tout ça, mais il sent que ça cache quelque chose de louche. Il lui dit, ce tableau, vous pouvez me dire, me donner des renseignements ?
Elle lui dit, j'en ai d'autres. Ils sont tous aussi précieux. Vous voulez les voir ?
Oui.
Venez.
Il la suit dans l'arrière-boutique. Elle le mène dans des escaliers qui descendent au sous-sol. Elle est claire.
Sur le mur amène la pierre des tableaux qui représentent aussi des portraits en buste des gens du 19e de l'aristocratie. Il y a 20 tableaux de même taille. Elle lui dit, c'est beau, n'est-ce pas ? Et tout aussi intéressant.
Il les regarde un à un. C'est comme les autres, c'est comme l'autre. Et voit que la signature est illisible.
Il lui dit, d'où proviennent-ils ?
Comment cela ?
Je ne sais pas, on ne me l'a pas dit. Tout du même endroit.
Et lui demande, qu'est-ce que ça signifie ?
Elle lui dit, comme si vous ne le saviez pas.
Et lui dit agacé, non, je n'en sais rien, rien de rien. Et j'en ai assez de ces phrases convenues. Parlez-moi franchement, sans mystère, et dites-moi ce que signifie tout ça.
Elle lui dit surprise, mais vous n'êtes pas l'élu.
Il lui dit, c'est moi qui ai hérité des affaires de Monsieur Jeune-Tout. Voilà tout. Mais personne ne veut me mettre au courant de tout ça. On ne me répond pas à mes questions. L'on tue, on trucide autour de moi. L'on raconte des horreurs sur ce que, soi-disant, font mes entreprises. Et voilà que je dois trouver tout ça normal. Que je ne dois rien dire. Me contenter de signer des chèques et de dire oui à des projets à moitié secrets. Comme si je devait être simplement un objet auquel on doit s'agenouiller de temps en temps pour qu'il dise « Amen ».
Elle lui dit, « C'est déjà beaucoup, et c'est votre rôle principal. »
Il lui dit, « De quelle mascarade ?» Elle lui répond,
« Je vois que vous ne savez rien, à moins que vous ne soyez pas celui que l'on attendait. Il y a eu des erreurs de signes et de signification. Pourtant, Jeune-Tout avait tout fait, avait bien fait les recherches qu'il fallait, et cela a mené à vous. »
Galien lui dit, « Oui, il y a sûrement erreur. D'ailleurs, je me sens tout à fait étranger à tout ça.
Et tous ces gens qui sont morts autour de moi. »
Elle lui dit, « Là, ce n'était pas une erreur. »
Il lui dit, « En tout cas, Didier, pour Didier, oui.
Et pourquoi ?
Est-ce que chaque fois que l'on...
Quelqu'un veut me parler, me dire quelque chose, il est trucidé. » Elle lui dit, « C'est une règle. » Bien, je crois que je me suis trompé en vous montrant ces tableaux. » Il lui demande, « Vous voulez vraiment rien me dire? Vous voulez pas me dire ce qu'il cache ?» Elle lui dit, « Ça vous servira à rien. » Étant donné que vous ne savez rien. Mais si personne veut commencer à me dire quelque chose, cela risquera de jamais changer. Oui, mais ce n'est pas à moi à le faire. Je ne suis qu'une boîte à lettres. Allez, montez. »
Et il retourne au magasin. Elle le mène vers la sortie. Un homme est entré, petit, maigre, les cheveux gris, la tête osseuse. Il porte un costume gris, une chemise et une vieille cravate très large. Ses habits sont très sales, tachés, sa chemise blanche est jaunie, le col usé comme tous ses vêtements. Il a à la main un vieux sac plastique, tout usé et sale, Jean, sac, grande surface. Il dit « Bonjour !» Elle soupire et lui dit « Oh, c'est encore vous ?»«
Oui, je suis venu parce que je veux moi aussi aller là-bas. » Elle lui dit « C'est impossible pour vous. » Il tape du pied. « C'est toujours pareil. Toujours la même chose. On me rejette de partout. J'en ai marre. Au village, on ne veut plus pour la fête. » À la chorale, on me rejette et on ne me donne plus à présenter les chants. À la radio, on me prend pour un imbécile et dans ma famille, c'est pas mieux. J'en ai marre. Je veux aller là-bas et j'irai.
Elle lui dit, bon, vous irez. Mais c'est tout vu.
J'ai ma carte de la radio.
Elle lui dit,
ça ne vaut rien.
Oui, ça ne vaut rien.
« Allez, je dois aller manger à FR3. »
Et il sort du magasin. Galien lui demande, « Qui est-ce ? » ?»«
Un pauvre homme qui veut être des nôtres. »«
Des nôtres de quoi ? » ?»«
Vous saurez plus tard. Au revoir, monsieur Dapp. »
Et il se retrouve dehors.
Laboratoire de biotech, Jean Riquin va voir où en est le cerveau du cadavre qu'ils ont pris. Il va le demander à son chef de laboratoire, M. Perrier, un jeune homme dans les 30 ans, cheveux qui ondulent châtain, petites lunettes, visage doux, un peu rêveur et de taille moyenne. Il porte une blouse blanche. Il est assis sur une chaise près d'un ordinateur et de plusieurs ustensiles. Jérôme lui demande, « Alors, où en est notre expérience ?»«
Nous avons nettoyé le cerveau, enlevé les pourritures, gardé que les parties nerveuses un peu intactes, nerfs, canaux, morceaux de chair. »
« Vous avez pu récupérer beaucoup de choses ?»
Non, très peu. Le cerveau était déjà en grande décomposition. Mais avec ce que nous avons gardé, quelques millimètres de ceci, de cela,
nous allons essayer c'est de revivifier tout ça par des rayons laser et de l'ultrason. Pour le moment, ça ne réagit pas. Nous avons décidé c'est d'introduire dans les tissus nerveux un produit réactif aux rayons et à l'ultrason.
Vous croyez que nous allons arriver ?
Nous ne savons pas si les nerfs sont capables de réaction, de mémoire et d'intelligence. Malheureusement, il ne reste pas beaucoup de mémoire et d'intelligence, que quelques millimètres par-ci, par-là.
Tout le reste est en décomposition très avancée. Alors, est-ce que ça va suffire? Et nous ne savons pas exactement si c'est vraiment la mémoire et l'intelligence que nous avons eues. Cela peut être aussi une partie du cerveau qui commande que des réflexes moteurs. Alors là, dans ce cas, il faudra chercher un autre corps, mais moins décomposé que celui-là. Jérôme lui dit,
nous y pensons. Il y aura bientôt de la chair fraîche. Des corps tout juste décédés viendront directement ici.
Docteur Perrier lui demande, alors pourquoi ne pas abandonner celui-ci et attendre? Genetot lui dit,
non, parce qu'une intelligence comme il avait, il n'y en a pas deux. Et puis le président l'exige. L'élu a besoin d'un esprit comme lui. Nous arriverons bien à quelque chose. L'ADN a bien été digéré par l'ordinateur. Alors, le cerveau.
Perrier lui dit,
malheureusement, le cerveau se dégrade, pourrit et disparaît.
Bon, faites de votre mieux. Surtout, ne jetez rien. Conservez tout, au froid. On ne sait jamais.
Bien, monsieur.
Et Jérôme Ricard sort du laboratoire.
Galien se sent fatigué. Il a envie de changer d'air. Il convoque Danfort dans son bureau et lui dit
« J'ai envie de prendre des vacances, de partir quelques jours dans un endroit seul et tranquille.
Vous voulez aller à l'étranger ?»«
Non, je reste en France. J'ai pensé à un petit village en Bretagne, isolé de tout. Trouvez-moi quelque chose à louer. »«
Bien, monsieur. Monsieur partira seul ?»
Oui, pourquoi pas avec Philippe. Nous serons deux, seulement deux.
Bien, monsieur.
Une fois Danfort parti, il téléphone à Philippe.
Allô, bonjour. Je suis Galien. J'aimerais parler à Philippe. Allô, Philippe, c'est Galien. Je téléphone parce que j'ai pensé que nous pourrions partir en vacances, tous les deux faire un petit voyage dans un village isolé de Bretagne. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord? Bien. Je vais préparer tout ça. À bientôt.
Galien est très heureux. Enfin, il va pouvoir être tranquille, sortir de cette atmosphère désagréable. Danfort lui a trouvé une petite maison au bord de la mer. Il aura un petit bateau, un 4/4 pour se promener, une femme de pays pour faire le ménage et les repas. Une semaine plus tard, Galien part en voiture pour la Bretagne avec Philippe. Il est venu le retrouver à Paris. Galien conduit un 4/4 parce que c'est plus facile pour circuler dans les chemins. Une fois avoir quitté Paris, la route est presque vide. Il rencontre peu de voitures et camions.